Bonjour, je vais enlever ça. Voilà. Avant de commencer, je voulais vous demander que vous puissiez vraiment écouter les choses qui vont être dites ce matin avec votre cœur. Je suis persuadée que chacun de nous, on est à des endroits différents avec le Seigneur, mais je suis persuadée aussi qu'au-delà de ce que moi j'ai préparé, le Seigneur veut parler à chacun par rapport à l'endroit où il se trouve. Alors, ce que je vous demande, c'est que, voilà, au-delà des mots que j'ai préparés, au-delà de ma faiblesse, parce que c'est la première fois que je fais une prédication devant une église, vous écoutiez le Seigneur et vous écoutiez vraiment ce qu'il a à vous dire pour ce matin. Parce qu'il a réservé un cadeau pour vous ce matin. Il y a quelque chose qu'il a de précieux qu'il a envie de vivre avec vous. Voilà. Alors, moi, j'avais envie de... Je vais mettre mes lunettes parce que sinon, je ne verrai rien de ce qu'il y a sur l'écran devant moi. En fait, le titre de mon message, ça s'intitule « Une question de vie ou de mort ». Et en fait, j'aimerais vous parler d'un père qui cherche désespérément sa famille. Mais il n'est pas seulement en train de chercher sa famille. En fait, il veut retrouver ses enfants et il veut leur redonner la vie. Et pour comprendre comment ça se passe, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, il faut qu'on revienne au commencement des choses. Parce que, en fait, c'est ce qu'on vivait au commencement que Dieu veut rétablir. Donc, je vais commencer par le commencement. Et en fait, au commencement, ben, il y avait Dieu. Et comme vous le savez, Dieu, c'est un, mais c'est aussi trois personnes. Et la Bible dit que, Dieu est amour, ça ne veut pas seulement dire qu'il nous aime. Ça veut dire qu'à l'intérieur de lui-même, il aime. Le Fils aime le Père, le Saint-Esprit aime Jésus, aime le Père. Il y a déjà cet amour qui est là, il est déjà au sein de la Trinité. Et en fait, Dieu aurait très bien pu se suffire à lui-même. Il aurait très bien pu vivre cet amour juste à l'intérieur de lui-même, sans avoir besoin d'aucune créature et de rien sur la terre. Mais c'est un peu comme dans un couple. Quand il y a de l'amour au sein de plusieurs personnes, ben, ça produit du fruit. Et Dieu, dans son amour, il avait vraiment envie de créer une famille. Alors il a créé Adam et Ève. Et son but, en fait, quand il a créé Adam et Ève, c'était vraiment d'avoir une famille à aimer, d'être aimé en retour. Mais il y avait un autre but aussi, c'était vraiment que Adam et Ève puissent manifester l'amour de Dieu à la création. Et lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans un jardin. Et dans cet endroit, il y avait vraiment une communion parfaite avec Dieu. Et en hébreu, le mot jardin, c'est le mot gan. Mais ça a aussi un autre sens, en fait, un sens figuré. Et le mot gan, ça veut dire une mariée. Alors on peut se dire, ben c'est étrange, un jardin, c'est une mariée. Ben oui, parce qu'en fait, dans le jardin, c'était comme si Adam et Ève, c'était un peu comme une épouse, et ils étaient vraiment sous la couverture spirituelle de Dieu, qui était un peu comme un mari pour eux. Et ils vivaient vraiment dans cette intimité, cette protection parfaite. Donc dans ce jardin magnifique régnait la vie. Alors c'est important de s'en souvenir, parce que c'est toutes les choses qu'on a perdues, puis qu'on essaye de retrouver en fait dans notre relation avec Dieu. Donc c'était vraiment le paradis. Il y avait une provision parfaite. Donc Adam et Ève, ils avaient la santé, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Ils n'avaient même pas besoin de se fatiguer pour l'avoir. Parce qu'en fait, la pénibilité du travail, c'est quelque chose qui est venu avec la chute. Donc ils avaient vraiment toute la provision dont ils avaient besoin. Ils vivaient une relation intime et parfaite avec Dieu. Si vous vous souvenez, chaque jour, Dieu marchait avec eux dans la douceur du soir. Et en fait, ils bénéficiaient de son amour, ils bénéficiaient de ses conseils. Et en fait, ils avaient vraiment le droit de vivre dans ce face-à-face avec Dieu. Il n'y avait aucune séparation. Il n'y avait aucune honte, aucune peur. Il n'y avait rien qui les séparait de Dieu. C'était vraiment une relation parfaite. Et ils vivaient dans l'innocence et la transparence. Si vous vous souvenez aussi, Adam et Ève étaient nus. Ils n'en avaient pas honte. En fait, ils n'avaient pas besoin de cacher ni leur corps, ni leurs pensées, parce qu'ils avaient cette innocence, et en fait, c'était vraiment la gloire de Dieu qui était leur vêtement. Il y avait une seule condition à cette vie, dans l'intimité de Dieu. Dieu leur avait dit, vous pouvez manger des fruits de tous les arbres du jardin, il y en a un que vous ne devez absolument pas toucher, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il leur avait dit, si vous touchez aux fruits de cet arbre, vous allez mourir. Donc Adam et Ève, ils avaient un choix. Ils avaient le choix d'obéir à Dieu et de rester dans cette intimité avec lui et de rester dans la vie, ou de désobéir à Dieu et de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc comment Satan les a tentés? En fait, le serpent a dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Donc qu'est-ce qu'a fait l'ennemi? C'est ce qu'il fait avec chacun de nous. En fait, il les a fait douter de la parole de Dieu. Il leur a fait croire que ce que Dieu disait, ça n'allait pas se passer. Et puis il leur a fait croire aussi que s'ils désobéissaient à Dieu, ils seraient comme des dieux. Que le fait de pouvoir connaître le bien et le mal, ça les rendrait comme des dieux. Alors qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont désobéi? Leur condition a changé d'une manière dramatique. En fait, avant leur désobéissance, ils étaient saints et sans péché. Saint, ça veut dire consacré, ça veut dire aussi pur. Ils vivaient dans cette innocence, dans cette transparence, et surtout, ils vivaient sous l'autorité de Dieu et sous sa couverture spirituelle. Et quand ils ont péché, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont vraiment entrés en contact avec le bien et le mal. Quand on dit qu'ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, ils ont mangé le mal. C'est comme si le mal était entré en eux comme une espèce de contamination. Et c'était quelque chose d'irréversible, en tout cas pour les humains, si Dieu n'intervenait pas. Et puis en fait, ils ont immédiatement commencé à éprouver des sentiments qu'ils n'avaient jamais connus. Même avant même de retrouver Dieu dans le jardin, en fait, ils ont commencé à avoir honte, ils ont commencé à avoir peur puisqu'ils se sont cachés, ils ont essayé de se recouvrir avec des feuilles de figuier. Et puis il y a aussi la lâcheté qui est venue parce que on voit bien dans leur manière de réagir quand Dieu les a confrontés qu'ils ont commencé à s'accuser mutuellement. Et une autre chose, c'est qu'ils ont laissé l'ennemi avoir autorité sur leur vie. En fait, il faut savoir que quand on accepte la parole de quelqu'un et qu'on s'y soumet, en la prenant comme quelque chose qui a de la valeur dans notre vie, c'est comme si elle prend autorité pour nous. Et en fait, ils sont passés de l'autorité de Dieu à l'autorité de l'ennemi. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Dieu, quand il les a vus dans leur misère et quand il les a vus recouverts avec cette feuille de figuier, il a dû sacrifier un animal. C'est la première fois que du sang a été versé, parce qu'il a fallu que Dieu les recouvre avec la peau d'un animal. Et puis, ils ont dû être chassés du jardin. D'une part, pour ne plus toucher à l'arbre de la vie, mais aussi parce que, en fait, Dieu ne supporte pas d'être en face du péché. Dieu est tellement saint que face au péché, c'est comme si sa sainteté consumait le péché en face de lui. Et dans Habacuc 1,13, il est dit de Dieu, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Donc ils ont dû partir de cet endroit, et ils ont dû partir aussi de l'intimité avec Dieu. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour l'homme? Il a tout perdu. Non seulement il a perdu la présence de Dieu, sa gloire, sa protection, la joie, la paix, mais il a aussi perdu la santé, il a perdu la provision, tout a été perdu en fait à ce moment-là. Et surtout, il y a une autre chose qui est intervenue, c'est ce que Dieu leur avait dit qui se passerait s'ils touchaient à ce fruit, c'est que la mort est entrée dans la vie de l'homme. Alors, ce n'est pas seulement une mort physique. Oui, il y a la mort physique qui est là, mais c'est aussi une mort spirituelle. Comme j'ai dit avant, c'est comme si ce péché qui avait commencé à contaminer l'homme devenait vraiment une source de mort autour de lui. Et d'ailleurs, on l'a vu très rapidement, je veux dire, déjà les enfants d'Adam et Ève, Caïn a tué son frère parce qu'il était jaloux de lui. Donc il y a vraiment ce mal qui a commencé à provoquer la mort. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'arrive parfois de me sentir comme Paul quand il dit « Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien. Le mal est présent à côté de moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Et quand Paul parle, il est bien vivant. Donc, il parle vraiment de cette mort, de ce mal qu'on produit sans le vouloir. Et en fait, séparés de Dieu, on peut être que désespéré par notre solitude, notre propension à faire le mal, malgré toutes nos bonnes résolutions et toute la souffrance que cela engendre. J'ai mis cette image parce qu'elle est tirée d'un film que j'aime beaucoup qui s'appelle La Ligne verte. Et dans ce film, il y a un personnage qui essaie de soulager la souffrance des autres. Et une de ses conclusions, il dit « Je suis fatigué de voir les hommes se battre les uns les autres. Je suis fatigué de toute la peine et de toute la souffrance que je sens dans le monde. » Et je crois qu'on peut vraiment s'associer à lui. Parce que si on regarde le monde autour de nous, on peut voir que les conséquences de ce mal qui a l'air de se multiplier et de devenir de pire en pire, quoi. Alors, est-ce qu'on peut se débarrasser de cette espèce de péché qui nous colle à la peau par nos propres efforts de justice? Ben, la Bible dit que non. En fait, au temps de Jésus, il y avait les pharisiens qui étaient des prêtres et qui se targuaient d'avoir vraiment une vie exemplaire. Ils essayaient de suivre scrupuleusement tout ce qu'il y avait dans la loi. Ils pensaient que par ça, ils étaient justes. Mais Jésus leur dit dans Matthieu 23, 27, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au-dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. » Il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas bien le français, qu'un sépulcre, c'est un tombeau. Et en fait, Jésus dit à ceux qui essayent de s'en sortir par leur propre force, en croyant qu'ils arrivent à faire le bien et à trouver la justice par eux-mêmes, qu'ils n'ont aucune chance, qu'ils sont aussi des sources de mort, malgré leurs apparences. Et la question qu'on peut se poser pour nos vies, c'est est-ce que nous sommes des sépulcres blanchis? Ou est-ce que nous sommes des sources d'eau vive? C'est une question qui est vitale et c'est une question qu'il faut quand même se poser parce que parfois on peut croire que parce qu'on a accepté Jésus dans nos vies, on est passé d'un endroit à un autre. Mais en fait, on est facilement source de mort. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et combien de fois est-ce qu'on a dit quelque chose à quelqu'un, partant d'une bonne intention ou dans un temps de colère ou n'importe quoi, et en fait, on a planté dans cette personne comme un coup de couteau à l'intérieur de son corps. On a brisé une relation. Il y a plein de choses qui sont mortes juste parce qu'on vient de faire. Et parfois même, quand on est plein de bonnes intentions, puis qu'on a l'impression qu'on n'est pas en train de faire du mal, parfois, en n'ayant pas donné l'attention ou l'amour à quelqu'un, on peut le faire mourir intérieurement d'une manière aussi sûre que si on avait fait du mal. Et très longtemps, moi, j'ai cru que Dieu me jugeait sur le fait qu'une action était bonne ou mauvaise, jusqu'à ce que je réalise que Dieu me jugeait sur est-ce que j'ai produit la vie? Est-ce que j'ai amené de l'amour? Est-ce que ce que j'ai fait a amené de la vie ou de l'amour dans la situation que je vivais ou pas? Et en fait, c'est une question très différente. Et moi, ça m'a vraiment amené à changer mon regard sur la manière dont je vivais ma vie. Parce que même des fois, quand on essaye d'économiser sa vie pour soi, en fait, on fait comme celui qui a enterré ses dons et ce qui devrait produire la vie meurt, en fait, et pas utilisé pour produire la vie autour de nous. Donc, voilà. Est-ce qu'on est des sépulcres blanchis ou des sources d'eau vive? Je crois que c'est une question qu'on doit se poser et qu'on ne doit pas se poser seulement une fois, mais régulièrement. Parce qu'en fait, Dieu ne veut pas seulement qu'on vive avec lui pour l'éternité. Oui, il a des projets pour la suite et ce sera grandiose et moi je me réjouis de son retour et de tout ce qu'on va vivre après. Mais surtout, il veut quelque chose maintenant. Il veut non seulement qu'on puisse retrouver cette relation avec lui, mais il veut qu'on puisse être des porteurs de vie. En fait, il veut nous rendre la nature qu'on avait auprès de lui. Auprès de lui, on était ses enfants, on était ses fils, on avait ses conseils, on était saints et on ne portait pas le mal avec nous. Et en fait, il veut nous redonner cette nature. Et c'est pour ça que dans la parole, c'est marqué que toute la création attend la révélation des fils de l'homme. Parce que, quelque part, Dieu, il a nous pour être ses porteurs de vie, pour porter cette vie autour de nous. Et la création, elle soupire après ça. Elle soupire à ce qu'on retrouve cette nature qu'on avait auprès du Père et qu'on manifeste sa vie, sa joie, sa paix, son amour. Et c'est vraiment un cri du Père qu'on puisse retourner vraiment dans cette nature. C'est pour ça que j'ai mis l'image en bas où on voit une résurrection et une sortie de nos tombeaux. Et maintenant, je vais juste vous parler de ce plan merveilleux que Dieu a mis en place, parce que lui, il a vu sa famille partir, il a vu le mal nous envahir et il était complètement désespéré. Je vous rappelle que Dieu, c'est la Trinité. Et en fait, ce qui est merveilleux, c'est que tous les acteurs de la Trinité se sont mis en route pour essayer d'imaginer un plan de salut, pour venir nous sauver et nous ramener dans cette communion avec Dieu. Et Dieu le Père, il nous a donné son propre Fils, Jésus. Et Jésus était d'accord, hein, il a dit « Je suis d'accord d'aller faire ce que tu me dis ». Et en fait, il l'a donné vraiment pour que notre condamnation soit effacée, pour qu'on soit pardonné. Mais il nous a donné Jésus aussi pour qu'on revienne à la vie avec lui. Et Colossiens 2 dit « Pour que le corps de la chair soit dépouillé ». C'est des termes un peu barbares, mais en fait, ça veut dire que quelque part, que cette chair qui nous poussait tellement à faire le mal, que quelque part, elle est plus cette force en nous, qu'elle perde cette force qui nous entraîne vers le mal. Et il nous a envoyé l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est quelqu'un de merveilleux, parce qu'en fait, c'est vraiment lui qui nous donne cette capacité de pouvoir vivre comme ses enfants de Dieu. C'est lui qui nous rend cette nature des enfants de Dieu. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais parfois on demande pardon à Dieu pour certains péchés qu'on a faits. Et puis, parfois on a tendance à les refaire. Et parfois, avec le temps, tout d'un coup, on réalise qu'on est en train d'agir d'une manière complètement différente de ce qui s'est passé avant. Et que c'est juste plus fort que nous, que c'est juste Dieu qui a mis ça en nous, comme la force de pardonner ou la force d'aimer quelqu'un qu'on a détesté pendant des années. Et on se rend bien compte que finalement, ce n'est pas notre nature qui a produit ça. C'est vraiment le Saint-Esprit qui est là en train d'agir en nous et qui nous amène à avoir la même nature que Dieu. Et ça, c'est une tellement bonne nouvelle. Et Paul dit dans Romains 8, 2, je vous lirai que le début du verset et la fin. « En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Et il dit, l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Ça veut dire que si vraiment on accepte d'être lavé et purifié, on accepte de marcher avec l'esprit et de lui demander son aide, eh bien, on peut marcher dans une autre loi. On peut marcher dans la vie et la paix avec lui. Donc, comment est-ce qu'on peut coopérer avec ce plan magnifique que Dieu a mis en place ? Je vous ai montré ce triangle au début, là où on voyait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et une chose que je trouvais magnifique, c'était qu'alors que j'écrivais ce message, j'avais l'impression que le Seigneur me disait, tu vois, j'ai pris ce triangle, puis j'ai commencé par tirer un bout avec Jésus, qui est venu dans votre nature pour vous sauver. Puis maintenant, je tire avec l'autre bout, c'est le Saint-Esprit qui vient. Et tout ça, c'est pour vous ramener au cœur de cet amour. Et cette image m'a plu, c'est pour ça que je la partage avec vous. Donc je reviens à mon message. Donc comment coopérer avec eux? La première chose qu'il faut faire, c'est en fait accepter le dépouillement de la croix. C'est dit dans la parole qu'en fait on ne peut pas entrer dans cette nouvelle nature si on ne suit pas Jésus dans ce baptême, dans sa mort et dans sa résurrection. Et on voit dans Jean 19 que Jésus était nu sur la croix. Souvent on voit des images où on a recouvert sa nudité parce que c'est plus acceptable à voir. Mais la réalité, c'est que selon la parole, les soldats avaient pris ses vêtements, donc il était totalement nu sur la croix. Et la seule chose de ses vêtements qui est restée, c'est sa tunique. Et en fait, sur la croix, il a vraiment porté notre honte. Cette nudité que nous, on a essayé de cacher dans le jardin d'Éden, parce qu'on avait honte d'avoir péché contre Dieu, quelque part, il a pris sur lui tout ce péché. Et comme Adam et Ève, grâce à Jésus, on a de nouveau un choix. On a le choix de continuer de porter nos feuilles de figuier ou bien d'accepter son manteau de justice. Je ne sais pas si vous savez, mais les feuilles de figuier, c'est urticant. Donc, moi, je vous conseille de choisir le manteau de justice. Mais c'est vrai que dans notre nature humaine, c'est tellement facile. Enfin, je ne sais pas comment vous vous êtes, mais c'est vrai que parfois, quand on est confronté à notre misère et à notre pauvreté, et parfois à notre péché, notre première réaction, ce n'est pas forcément d'être d'accord, de voir tout de suite ce qu'on a fait. Donc on a tendance quand même à être exactement comme Adam et Ève, et en fait à cacher nos péchés sous des feuilles de figuier. Et le problème, c'est qu'en fait, le péché continue à produire du mal, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'ait caché sous un gros tapis ou quoi qu'on en ait fait. Il produit du mal dans nos vies et il produit du mal envers tous ceux qui sont autour de nous, et ça continue à nous séparer dans notre relation avec Dieu. Donc on a vraiment ce choix. Et en fait, c'est un choix qu'on voit aussi dans l'Apocalypse. Il y a une des églises à qui Dieu dit « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. » Il y a un autre verset dans Jean 1, 7 qui parle de la lumière. Et il dit « Si nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Alors c'est vrai, on a le pardon en Jésus, et Jésus veut nous purifier de nos péchés. Mais ça nous oblige quand même à être d'accord de regarder nos péchés en face et d'avoir l'honnêteté d'aller vers Jésus pour confesser nos péchés, pour demander pardon et pour lui demander la grâce de pouvoir changer. Autrement, il ne se passe absolument rien. Ce n'est pas une opération magique qui a été faite. Jésus a tout accompli pour que nous, on puisse vivre cette purification. Mais nous, on doit entrer dans la démarche et passer par là et accepter cette transparence devant Dieu. Alors, il y a une bonne nouvelle. C'est qu'une fois qu'on a accepté d'être nu et transparent, puis qu'on a accepté d'être lavé, on est un peu comme ce fils prodigue qui rentre à la maison. Jésus et Dieu, le Père, ils veulent vraiment nous revêtir d'un vêtement. Et ce vêtement, c'est vraiment cette tunique qui est tombée de la croix, c'est ce vêtement de filiation. Il veut nous rendre et nous ramener comme ses fils dans la maison, il veut nous honorer et nous rendre notre place auprès de lui. Et ce désir, en fait, il est manifesté tout au long de la Bible. Je vais vous lire ce passage d'Ézéchiel 16, 8. Si jamais je me mets à pleurer, j'ai déjà pleuré ce matin quand je l'ai lu, mais c'est parce que je le trouve tellement beau et en fait il me touche tellement parce que s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez ce matin, c'est ce verset, et c'est ce désir de Dieu, c'est cet amour qui est là, qui vous cherche et qui veut vraiment vous ramener dans ce cœur de Père. « Je passais près de toi, je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité. Je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. » Alors Paul aussi, il parle de ce vêtement. Et en fait, je ne vous lirai pas tout le passage, mais c'est dans 2 Corinthiens 5, les versets 4 à 5. Il dit qu'il aspire à ce vêtement pour que ce qui est mortel soit englouti dans la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Et Dieu a fait aussi cette promesse à Israël. Et parce que nous sommes greffés sur l'olivier franc et nous sommes greffés sur ces promesses à Israël, c'est une promesse qui est aussi pour nous. Il dit « Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. » Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Et une chose qui est magnifique, c'est que non seulement Dieu veut nous purifier, mais le Saint-Esprit est là pour changer nos cœurs et pour nous rendre cette nature de fils. Jésus a dit à Nicodème, à moins de naître d'eau et d'esprit, j'aimerais bien insister sur les deux parce que c'est vraiment les deux qui sont vitaux, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naître d'eau, c'est laisser Dieu nous purifier de toutes nos souillures et de nos idoles par le sang de Jésus. Naître d'esprit, c'est aspirer à sa présence, à celle de l'Esprit Saint, et l'inviter à vivifier et à conduire nos vies. Moi, je suis quelqu'un qui suis passionnée par nos racines juives. Et en ce moment, on est entre deux fêtes. J'aime les fêtes de l'Éternel parce que elles sont toutes une préfiguration de ce que Jésus a fait. Et en fait, s'y intéresser, ça nous permet de mieux comprendre aussi le plan éternel de Dieu pour nous. Et la semaine passée, c'était Yom Kippour, mercredi. Et en fait, par rapport à Christ, Yom Kippour, ça nous parle vraiment du fait que Christ, c'est notre souverain sacrificateur. Parce qu'à Yom Kippour, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint une fois par année avec le sang d'une chèvre qui était une chèvre expiatoire, donc qui payait pour le péché du peuple. Et c'était aussi un moment où une autre chèvre était envoyée dans le désert pour emporter le péché loin du peuple. Et c'est vraiment ce que Christ a fait pour nous. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu qu'il est le souverain, qu'il est notre souverain sacrificateur et que c'est lui qui s'est offert comme victime expiatoire et que c'est lui qui est entré dans le tabernacle du ciel, dans le lieu très saint auprès de son Père avec son sang pour ouvrir le chemin pour nous. Et la fête qui commence demain, c'est la fête de Soukhot, c'est la fête des tabernacles. Et en fait, c'est une fête qui parle de la sortie d'Égypte du peuple et du fait que non seulement Dieu les a délivrés de l'esclavage, mais qu'il les a conduits dans le désert. Si vous vous souvenez, alors qu'ils avançaient avec le tabernacle, il y avait toujours sur eux cette nuée le jour et cette colonne de feu la nuit. Et c'était vraiment le symbole que la gloire de Dieu était là et qu'il les protégeait, qu'il les conduisait dans toutes choses. Et il y a une chose magnifique qui se passait à Soukhot au temps où le temple était là, c'est que c'était aussi une fête par rapport au déversement de l'esprit. C'était vraiment un des éléments importants de cette fête. Et en fait, à ce moment-là, le prêtre descendait à la fontaine de Siloé, il remplissait un pichet d'or, il le remplissait d'eau, il remontait au temple, et en fait, il déversait l'eau sur l'autel. Et alors qu'il faisait ça, il appelait la pluie de l'arrière-saison. Et cette pluie, ce n'était pas seulement une pluie sur le pays pour les cultures, mais c'était aussi une demande à Dieu de répondre à sa promesse qu'il enverrait le Saint-Esprit. Et c'est une fête qui dure 7 jours. Donc chaque jour de cette fête, le prêtre versait l'eau sur l'autel et il faisait cette prière « Répands ton esprit ». Et le jour d'après, il refaisait cette prière « Répands ton esprit ». Et en fait, chaque jour qui passait dans cette fête, il y a eu une anticipation plus grande que Dieu réponde à sa promesse de répandre son esprit qui nous permette d'avoir des cœurs nouveaux. Et il s'est passé une chose incroyable pendant ces fêtes, parce que je vous rappelle que Jésus était juif, donc il suivait les fêtes, et qu'en plus il a dit des choses importantes aussi pendant ces fêtes, donc il y a aussi une corrélation avec ce que lui a fait à ce moment-là. Et c'est au moment où le prêtre était en train de déverser cette eau et de prier que Dieu réponde son esprit, que lui a dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et c'était ça le but de Jésus. C'est toujours son but. Son but, c'était non seulement de nous sauver, mais de nous ramener à la vie. Pas seulement qu'on soit des morts vivants, mais vraiment qu'on ait cette vie en abondance. Et il le dit dans un des versets, il dit « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. » Et en fait, je connais pas toutes les personnes qui sont dans cette salle, mais si jamais il y a quelqu'un qui connaît pas le salut par Jésus-Christ, qui n'a jamais eu la possibilité de l'accepter dans sa vie, ben je vous propose à la fin de venir vers les personnes qui prient ou vers n'importe qui et de faire cette démarche, parce que c'est quand même magnifique de pouvoir vivre ce salut et de pouvoir recevoir ce pardon de vos péchés. Et pour les autres, je crois qu'on a tous besoin d'être transparents, d'être honnêtes, d'accepter de venir devant Dieu pour être purifiés de nos péchés. Et puis d'aspirer en fait à recevoir ce Saint-Esprit qui nous donne cette nouvelle nature. Et c'est ce que je vous propose après de faire pendant la Sainte Cène, c'est vraiment de laisser la lumière de Dieu venir sur vous et d'accepter de lui remettre ce que vous avez à lui donner. Et puis quand vous prendrez les éléments, que vous prendrez ce sang, de vous rappeler que c'est ce sang qui vous purifie de vos péchés et que c'est une grâce infinie, même si c'est que des symboles, c'est vraiment une réalité spirituelle. Et puis en fait, je vous ai apporté un objet que mes amis du groupe de prière vont reconnaître. Bon, là, ça va être difficile. Enfin, je vous explique ce que c'est avant de faire la suite. Enfin, à moins que mon mari veuille venir m'aider. C'est lui qui va faire la démonstration. En fait, c'est un objet qui s'appelle un chante-pleurs. En fait, t'aurais dû le vide d'abord. Non, c'est vrai. Alors, le but du chante-pleurs, enfin, à l'origine, c'était d'arroser les sols quand on voulait balayer. Mais je trouve en fait que c'est un objet absolument magnifique. En fait, c'est une espèce de cruche qui a des trous au fond. Voilà. En fait, pour qu'elle fonctionne, il faut la plonger dans l'eau. Puis au moment où on la plonge dans l'eau, en fait, elle se remplit d'eau. Et puis au moment où vous la soulevez, ben, ça fait comme... voilà, il va vous montrer. En visant bien le seau. Vas-y, lâche. Voilà. Alors, je trouvais cet objet très symbolique pour ce matin, pour deux raisons. Ben, d'abord parce qu'en fait, il doit être plongé dans l'eau en premier. Et on a besoin d'être plongé dans l'eau. Mais une fois qu'il est plongé dans l'eau, il peut être rempli de cette eau, de vie. Et puis, une fois qu'on le sort de là, il peut couler et il peut être cette source d'eau vive pour les autres. Et c'est vraiment ce que je vous invite à vivre ce matin. Alors, je vais juste prier pour conclure. Mon Père, moi, je voulais vraiment te remercier. Je voulais te remercier pour ton amour débordant. Je voulais te remercier pour ce plan de salut magnifique que tu as développé avec Jésus et avec le Saint-Esprit pour nous ramener dans ton amour. Et Seigneur, je te prie vraiment que tu nous aides à faire la lumière sur nos cœurs, que nous puissions accueillir cette lumière parce que nous voulons marcher dans cette lumière et dans cette transparence avec toi, parce que nous voulons te donner le droit de venir nous dire là tu as besoin d'être lavé, là tu as besoin d'être purifié. Seigneur, nous ne voulons pas être comme Pierre qui dit « moi je veux pas être lavé » parce que Jésus lui a dit « mais si je te lave pas, tu n'auras aucune part dans mon royaume ». Alors je te prie que tu nous aides à être vrais et sincères pendant ce temps de scène. Et je te prie qu'il y ait cette aspiration en nous vraiment que tu répandes ton esprit, que comme cette eau qu'on a vue couler, on puisse avoir cette aspiration dans notre cœur et qu'on puisse vraiment appeler ta vie. Et je te prie que tu viennes visiter tous nos endroits de mort et que tu nous aides à être des porteurs de vie pour cette création qui t'aime tellement. Au nom de Jésus. Amen.